Chapitre 8. Roman se gara sur le parking de la supérette Save You Moore et coupa le contact. Les lumières automatiques s'allumèrent les unes après les autres, telles des lucioles. Il descendit de la voiture et entra dans le magasin. En arpentant les rayons, il fut surpris de constater à quel point quasiment rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'il avait mis les pieds ici. Les boissons alcoolisées étaient toujours beaucoup plus nombreuses que les bouteilles d'eau ou de jus de fruits dans les réfrigérateurs. Et là où les étagères de confiserie débordaient de produits, celles de pain accumulaient la poussière. Roman songea que l'image de désert alimentaire qui permettait de décrire une zone géographique où la nourriture saine était inaccessible pour la majorité des bourses n'était pas la plus appropriée. Lui voyait plutôt un océan, de l'eau à perte de vue. Mais malheur à qui se risquerait à en boire. Quant aux petites supérettes, comme celle-ci, elles représentaient les déchets flottant à la surface. Roman n'avait besoin que de pâtes et de fromage. Il avait déjà la viande hachée et la sauce tomate. Il comptait confectionner pour Nevea et Dante une des spécialités de leur adolescence, le gratin de cheeseburger. C'était une recette assez simple, qu'il avait trouvée un jour au dos d'une boîte de macaroni. On ne lui avait jamais explicitement demandé de prendre soin de ses frères et sœurs, mais les choses s'étaient faites ainsi et avaient fini par s'inscrire dans la routine. C'était une époque où ses parents rentraient très tard du travail, et il n'y avait jamais personne pour préparer le dîner pour Nevea et Dante. Alors Roman avait dû s'improviser cuisinier. Souvent, c'était aussi lui qui s'occupait du petit déjeuner. Roman se rappelait avoir pensé que la relation que ses parents entretenaient avec le crématorium était plus forte que leur mariage. Cette entreprise qu'ils avaient bâtie accaparait une part tellement importante de leur vie qu'il ne leur restait plus beaucoup de place pour assumer leur rôle de parents. Roman posa les pâtes et le fromage sur le comptoir. Le caissier, un jeune noir avec des tresses collées, scanna les articles sans lui adresser la parole, ce qui allait très bien à Roman, qui n'était pas d'humeur bavarde. Celui-ci se fit la réflexion que le coiffeur du caissier avait du talent. Du temps où Nevea lui faisait ses tresses, elle n'avait jamais réussi à obtenir un résultat aussi parfait.
« C'est bien toi, Roman Carothers ?»
demanda soudain une voix rauque dans l'ombre. Roman vit alors Leslie Moore, le propriétaire de la supérette, s'approcher du comptoir en s'appuyant sur une canne. Sa peau brune semblait presque bleue sous la lumière des néons.
« C'est bien moi !» confirma Roman.
« Comment allez-vous ? » ?»«
On n'a jamais retrouvé ta mère, hein ?»
fit le vieillard avec un rictus, exhibant deux rangées de dents jaunies.
« Je parie que ton père l'a tué et qu'il a jeté ses cendres dans la rivière. »
Puis il tourna les talons et repartit vers l'arrière-boutique.
« Mon grand-père a Alzheimer, » expliqua le jeune caissier. « Faut pas lui en vouloir, il sait plus ce qu'il raconte. »
Roman régla ses achats et sortit sans un mot. De retour dans sa voiture de location, il mit la clé dans le contact, alluma la radio et monta le volume jusqu'à ce que les basses lui fassent mal au tympan. Puis il se laissa aller contre l'appui-tête et ferma les yeux. Il prit alors plusieurs longues inspirations successives en expirant par le nez, une technique qu'il avait apprise au yoga à l'époque où il avait encore le temps de s'y rendre trois fois par semaine, avant que sa carrière décolle. Ça faisait tellement longtemps que Roman avait quitté sa ville natale qu'il avait baissé sa garde. Il avait oublié que, en dépit des années, la disparition de Bonita Carothers restait le fait divers le plus tristement célèbre de Jefferson Run. Les affrontements entre gangs rivaux qui avaient déjà causé plusieurs centaines de victimes, le scandale de la triche organisée qui avait éclaboussé l'université de Prosser State, la compétence crasse du conseil municipal qui se montrait incapable d'attirer des activités commerciales légales sur la commune. Ce n'étaient pourtant pas les sujets de conversation qui manquaient. Mais pour les habitants de Jefferson Run, aucun n'égalait la disparition de Bonita Carothers, soupçonnée d'avoir été assassinée par son mari. Pas même pour un vieillard sénile. D'ailleurs, le petit-fils du dit vieillard n'avait pas eu besoin de demander à Roman qui était sa mère. Il savait très bien à quoi son grand-père faisait référence. La mère de Roman avait atteint le statut de légende urbaine. Elle était la Dame Blanche de High Point Street. D'un point de vue purement théorique, Roman comprenait pourquoi. Leur père n'avait pas déménagé. La police n'avait jamais réussi à prouver qu'il était coupable de quoi que ce soit. Bonita était la mère de Roman,
mais elle était également le fantôme de Jefferson Run, l'esprit qu'on invoquait lorsque les conversations se tarissaient ou que le sermon du pasteur tirait en longueur. Il pouvait presque entendre les discussions dans sa tête.
« Tu te souviens de Bonita Carruthers ?
Elle couchait avec Oscar Conley, non ?
À la place de Kiss, moi aussi je l'aurais brûlé. »
Roman soupira. La mémoire est quelque chose de très puissant. C'est un mécanisme auquel on peut recourir pour nous murmurer des mensonges lorsqu'on ressent le besoin de se punir. Pour les habitants de Jefferson Run, se rappeler Bonita Carruthers était un passe-temps. Pour Roman, c'était une pénitence. « Tu fais à manger ?» demanda Nevea en pénétrant dans la cuisine, où Roman sirotait un verre de l'excellent whisky de son père en attendant de sortir son gratin du four. Dante dormait sur le canapé du salon. Nevea prit une canette de soda dans le réfrigérateur et s'adossa au plan de travail. « Je prépare un gratin de cheeseburger pour le dîner », annonça Roman. « Mais peut-être que t'as prévu de manger ailleurs ?» Il porta le verre à ses lèvres et regarda sa sœur avaler une grande gorgée de soda. Nevea aimait les canettes bien fraîches. En revanche, elle détestait les glaçons. Roman s'étonnait toujours de constater comment certains détails insignifiants s'inscrivaient à jamais dans son cerveau, dès lors qu'ils concernaient sa famille. Et encore plus lorsqu'il s'agissait de son frère ou de sa sœur.
« Non, non, j'ai rien d'autre de prévu », répondit Nevea.
« Par contre, j'arrive pas à croire que tu te souviennes de la recette. Je pensais que maintenant que tu habitais à Atlanta, tu mangeais dehors tous les soirs. J'encourage mes clients à cuisiner autant que possible. Si on dépense tout son pognon au restaurant, faut pas s'étonner si on finit par devoir s'y faire embaucher comme serveur. » Pendant une fraction de seconde, il vit un vrai sourire se dessiner sur les lèvres de sa sœur. Le tout premier depuis qu'il était de retour à Jefferson Run. Hélas, Nevea avait dû se surprendre elle-même, car le sourire disparut aussi vite qu'il était apparu. Avant que Dante se réveille et dévore la moitié du plat en une seule bouchée, je voudrais te parler d'un truc, dit-elle.
Je t'écoute.
Je suis allé voir les flics aujourd'hui. Ils avaient pas l'air très intéressés, étant donné que ni toi ni Dante n'avaient porté plainte après votre agression. Mais il se trouve que je connais quelqu'un là-bas, et il m'a promis qu'il se renseignerait.
Merci.
Nevea se pinça l'aile du nez.
Écoute, Rome. Tu crois peut-être que je suis naïve, mais tu te trompes. Avec papa, il nous est arrivé de fermer la boutique le samedi à 3h du matin, à une époque où ça braquait à tout va sur High Pond Street, et on n'a jamais eu de problème. Les braqueurs savent qu'il n'y a pas d'argent liquide dans un crématorium. Alors si tu profitais de la sieste de Dante pour m'expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce que tu vas pas me faire croire que c'est une coïncidence si on s'est fait crever les pneus, si papa a fini dans le coma, et si vous venez de vous faire massacrer.
Je t'ai pas menti, Nevea. Dante m'a rejoint au crématorium, il m'a aidé à nettoyer, et quand on est sorti, des types nous sont tombés dessus. Ils voulaient nos portefeuilles, mais j'ai jamais de liquide sur moi. Et Dante avait juste un billet de $20. Ils ont piqué sa carte bleue et mon American Express. Dante avait un sachet dans la poche. De l'ecstasy, je pense. Les gars nous ont pas cru quand on leur a expliqué qu'on n'avait rien d'autre, et ils sont partis en vrille. Dante a préféré ne pas porter plainte à cause de la drogue. Je te jure que c'est la vérité.
Depuis qu'on est tout petit, chaque fois que tu mens à quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux. Comme t'es en train de le faire avec moi. Dante est mouillé dans une sale histoire qui a failli vous coûter la vie et celle de papa. Parle-moi, Rome. Laisse-moi aider. Explique-moi ce qui s'est passé avant que vous y perdiez plus que des dents et des doigts.
Roman baissa la tête et examina le motif du carrelage de la cuisine.
Je te jure que c'est ce qui s'est passé, répéta-t-il.
C'est faux,
rétorqua Nevea, après un long soupir.
Mais tu me diras pas la vérité. Ça aussi, c'est quelque chose que je sais sur toi. Une fois que t'as pris une décision, rien ni personne ne peut te faire changer d'avis. Va réveiller Dante, je m'occupe de sortir le plat du four. J'ai faim, je suis fatigué et j'ai pas l'énergie de discuter avec toi pour essayer de comprendre pourquoi tu me mens.
Nevea, je te jure que... Stop, Rome. Arrête de dire ça. Arrête de me prendre pour une conne.
T'as peut-être pas remarqué, mais ce crématorium, c'est toute ma vie. J'ai quasiment pas d'amis, j'ai pas de mec. J'ai que ça. Et c'est votre faute à papa, Dante et toi. Donc si Dante s'est mis dans des embrouilles qui risquent de retomber sur la boîte, je suis en droit de le savoir. Papa se comporte exactement comme tu es en train de le faire. Tant qu'il s'agit de faire les comptes ou d'enfourner un cadavre, il juge que je suis assez qualifié. Par contre, pour les problèmes sérieux, il fait tout pour m'écarter. Il veut surtout pas que sa petite chérie s'inquiète. Venant de lui, j'ai l'habitude. De lui et de la plupart des hommes, d'ailleurs. Mais je pensais pas que mon propre frère me ferait le même coup.
Nevea ouvrit le four, attrapa le plat à gratin à main nue et le posa violemment sur la plaque de cuisson.
« Mais qu'est-ce que tu fais ?»
s'écria Roman en se précipitant pour examiner les paumes de sa sœur.
« Utilise au moins un torchon !»«
Tu sais, frangin, depuis le temps que je manipule les fours du crématorium, mes doigts ont perdu toute sensibilité. »
Elle se dégagea et sortit des assiettes du placard. Roman sentit qu'il aurait dû dire quelque chose, mais il ne savait pas s'il pouvait combler le fossé qui s'était creusé entre Nevea et lui, ou s'il ne ferait au contraire que l'agrandir. Il opta donc pour le silence, le moyen le plus sûr de ne pas commettre d'impair. Après le dîner, alors qu'il était allongé dans son ancien lit, Roman reçut un texto de Khalil. « Je viens d'atterrir. Je débarque chez toi, où on se retrouve demain ?» Roman répondit. « Demain. On a beaucoup de choses à voir ensemble. » « Ok. Au fait, j'ai eu la confirmation par mail. C'est tout bon. » « Parfait. » Cet email signifiait que Khalil avait contacté Sasha Billings, une conseillère financière spécialisée dans les crypto-monnaies, dont elle faisait gonfler artificiellement la valeur avant de les revendre, avec la discrétion redoutable d'une courtière vivant dans les confins du nouveau Far West financier. Roman ne faisait appel à ses services que lorsqu'un de ses clients se retrouvait avec un énorme excédent de trésorerie à rafraîchir dans les plus brefs délais. Dans le cercle dont il faisait désormais partie, l'expression « blanchiment d'argent » était un gros mot. Roman avait un compte dans la société de Sacha sur lequel étaient placés 100 000 dollars, une sorte de séquestre déposé sous un prête-nom, afin que le fisc ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Lorsqu'il avait demandé le « traitement complet », cela signifiait que Sacha devait investir immédiatement l'intégralité des 100 000 dollars dans des actions dont elle s'apprêtait à faire grimper la valeur. Dans un second temps, elle l'aiderait à les revendre. Roman avait imaginé ce plan B pour ne pas avoir à repartir de zéro, si jamais un de ses clients se rendait coupable d'une fraude tellement grossière que cela l'impacterait par ricochet. Bref, c'était sa procédure de sécurité en cas d'échec. Or, la veille, il avait échoué. Et tant qu'il n'aurait pas réparé son erreur, personne ne serait en sécurité.